C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Alors, pardon, il y avait un petit souci de micro. Alors, si le son est, vous paraît un peu bizarre par rapport à d'habitude, c'est que, bah, bonne nouvelle, nous avons repris le direct, enfin en tout cas en partie, puisque eh bien, je suis tout seul dans le studio, histoire de respecter un peu ces histoires de gestes barrières et tout. Et au niveau du son, si ça vous paraît bizarre, c'est que eh bien, je porte un masque et autour du micro dans lequel je parle, il y a donc du cellophane. Voilà, tout ça afin qu'on puisse continuer tous et toutes à pouvoir faire de la radio. Alors, ce soir, de quoi on va vous parler dans nos infos? Eh bien, on va commencer par quelques brèves. On va parler de Renault, de drones et d'Uber. Ensuite, on aura une petite info locale, puisque l'abandon de l'anneau des sciences semble être acté. Ensuite, nous irons du côté de l'Égypte, et Covid ou pas, les prisons tuent, avec une petite pause musicale. Ensuite, on ira faire un tour du côté du Pila, où cette fois-ci, eh bien, les nazis à la petite semaine continuent de faire leurs petits éclats. Hein. Ensuite, on ira du côté de l'Espagne, qui expulse de manière complètement illégale des migrants vers le Maroc. Et nous finirons ces infos par une info qui se dénomme « Masque et compagnie ». Mystère, mystère, de quel masque allons-nous parler ?
Canu Info du mercredi.
Et donc on va commencer par parler de Renault.
Renault, petite entreprise automobile en galère, est l'heureuse bénéficiaire d'un prêt de 5 milliards d'euros octroyé par l'État, qui, rappelons-le, n'était assorti d'aucune exigence, notamment en matière d'emploi. Mais afin d'assurer pleinement ses arrières et pour y voir plus clair dans un avenir trouble, Le Canard Enchaîné fait fuiter aujourd'hui que Renault concocte un plan de fermeture de sites pour économiser 2 autres milliards. Sont envisagées la fermeture de 4 sites, Choisy-le-Roi, Dieppe, les Fonderies de Bretagne et à terme celui de Flins et ses 4000 salariés.
Eh ben, il y en a qui n'ont pas peur de gratter de la thune tout en faisant des saloperies. On va parler des drones en parlant de saloperies.
Alors que le confinement avait été abondamment surveillé par drones, notamment à Nice par exemple, où le drone en question interpellait les passants pour leur donner des ordres, le déconfinement n'est pas autorisé à être surveillé par drone. Depuis le déconfinement progressif, les drones servaient à surveiller que des attroupements ne se formaient pas. Leur entrée en action avait été largement mise en scène par la préfecture de police de Paris, mais sans trop donner de détails techniques, notamment sur le stockage des vidéos réalisées dans l'espace public. Une ordonnance du Conseil d'État reconnaît donc, faute de cadre juridique adapté, l'illégalité de l'utilisation de drones avec caméra utilisés par la police pour détecter des individus. C'est une ordonnance qui fait suite à un recours mené par les associations La Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l'Homme. Donc certes, c'est une victoire, mais le Conseil d'État précise quand même que l'illégalité peut être levée par un arrêté ministériel pris après avis de la CNIL. En tout cas, dans l'attente d'un tel arrêté, la police devra maintenir au sol la grande majorité de ses drones dans l'ensemble du pays. Il n'empêche, comme le rappelle la Quadrature du Net, que d'autres outils technologiques restent sans cadre juridique et continuent tout de même à se développer, comme la vidéosurveillance automatisée ou les capteurs sonores. Uber, c'était déjà... Uber,
c'est une, Uber. Pardon, hop là. Et c'est une bonne nouvelle quand même pour cette histoire de drone. On vous en avait parlé la semaine dernière. Et effectivement, la Quadrature du Net avait déposé un recours il y a de ça quelques temps. Ils avaient essuyé un premier rejet et donc le recours du rejet a donc été validé. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ben, on va voir que du côté d'Uber, au niveau des ressources humaines, les choses classe, c'est pas vraiment ce qui les concerne, quoi.
Uber s'était déjà débarrassé d'une foule de chauffeurs. Il licencie maintenant 3500 de ses employés administratifs dans le monde. Ils l'ont appris en 3 minutes par une visioconférence tenue par l'un des responsables du service clientèle, qui s'est tout de même fendu d'une larme. Aujourd'hui sera votre dernier jour de travail pour Uber, a-t-elle ainsi annoncé aux employés conviés à la réunion. Évidemment, dans une Amérique qui a vu 30 millions de personnes mises brutalement au chômage, l'affaire n'a pas fait grand bruit auprès des médias, mais a déversé des flots d'indignation sur les réseaux sociaux. En Égypte, depuis la mi-mars...
Excusez-moi, je suis tout seul en technique. Des fois, c'est un peu galère. Alors, on va parler anneau des sciences. Le grand projet de l'anneau des sciences, autrefois appelé TOP pour tracé ouest périphérique, est, semble-t-il, mort. Alors, cet anneau, c'est quoi? Si vous êtes passé à travers ces dernières décennies, c'est un immense périphérique fait pour que tout un tas de voitures puissent contourner Lyon. Alors bien sûr, ce projet a connu un immense rejet de la population. En premier, celles et ceux qui allaient voir pousser à leurs pieds une autoroute. C'est sûr que ça motive à rejeter le projet, mais pas seulement. Alors à peu près tout ce qui regroupe de près ou de loin des personnes soucieuses de ne pas voir investir des millions pour des bagnoles qui puent et qui polluent. Alors, j'ai dit « semble-t-il » tout à l'heure, parce que ce projet a connu quand même un bon nombre de décès et de ressuscitations. Alors, on a commencé à en parler, ça date, dans les années 70, avant que Raymond Barre, ça date aussi, ancien maire de Lyon, n'y mette fin. Puis Gérard Collomb arrive et le ressuscite en 2000, sous forme d'un immense tunnel, pour faire plaisir à ses amis écologistes, disait-il, pour éviter que cela pollue. Que ça pollue, excepté à l'entrée et à la sortie de ce fameux tunnel, où là, tout serait concentré comme ce qui se passe un peu à l'entrée et à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, par exemple. À l'entrée et à la sortie des tunnels, c'est en général méga pollué, comme vous pouvez l'imaginer. En 2017, alors que Collomb est ministre de l'Intérieur et qu'une liste de grands projets utiles est faite afin de secrètement faire des économies, l'anneau des sciences n'y figure pas. Alors ici à Lyon, tout le monde y voit un premier signe d'affaiblissement du projet soutenu par Gérard Collomb. Alors, dans un premier temps, David Kimfeld, alors petit poulain de Collomb, on se souvient, soutient fermement le projet. Puis en 2019, ayant retourné sa veste pour essayer de la faire passer pour verte, il commence à montrer son hésitation face au projet. Bon, c'est un peu le moment où il essaye de s'émanciper de Collomb pour se présenter face à lui au municipal. Alors, on sent qu'il commence un peu à poser ses pions. Et c'est seulement en fin d'année 2019 qu'il va dire son opposition farouche au projet qu'il a soutenu donc farouchement pendant deux ans auparavant. Alors, dans la même période, Collomb lâche son ministère, juste après cette annonce, lâche son ministère et revient comme maire de Lyon et réaffirme son soutien au projet qu'il qualifiera, je cite, « d'autoroute écologique ». Et puis, le coronavirus et sa crise sont passés par là. Et donc, on imagine mal comment un projet de plusieurs milliards d'euros va pouvoir être soutenu par l'État et les collectivités. Les contestations locales, comme au niveau national, mais comme Notre-Dame-des-Landes ou Bure, comme il y a eu au niveau de l'A45 Lyon-Saté. Bref, tout ça a, j'imagine, aussi un peu pesé dans la balance de Gérard Collomb. Et il a donc annoncé la fin hier de cet épisode. Il a dit, bon voilà, en gros, on arrête, on ne fait plus ça, en gros, on n'aura pas le pognon. Alors voilà, vigilance, est-ce que ceci est un énième rebondissement ou est-ce que ce sera la fin réelle? Vu la crise qui s'annonce, il y a de fortes chances que le projet ne voit pas le jour, mais restons vigilants et vigilantes.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Info.
En Égypte, depuis la mi-mars, des proches de personnes emprisonnées, notamment des journalistes ou des prisonniers politiques, se rendaient régulièrement devant les prisons surpeuplées pour exiger la libération de ceux qui n'ont rien à faire derrière les barreaux. Dans l'une d'elles, la prison de Tora, le réalisateur et caméraman Shadi Habash est décédé le 2 mai. À 24 ans, il croupissait à Tora depuis mars 2018 pour un clip moquant le président Sissi. Il était accusé de diffusion de fausses nouvelles et d'appartenance à une organisation illégale, après avoir réalisé ce clip aux millions de vues, un temps censuré. Ce clip, c'est celui de la chanson Balaha, interprétée par le rocker aujourd'hui exilé en Suède, Rami Essam, qui a émergé pendant les 18 jours de révolution en janvier-février 2011. Balaha, c'est le nom d'un menteur notoire, le nom dont le président Sissi a été affublé par ses détracteurs, en référence au personnage célèbre d'un film égyptien. Shadi Habash est mort après 2 ans et 2 mois de détention provisoire, faite de reconduite tous les 45 jours, sans jamais avoir connu de procès. Dans l'une de ses lettres, il y a 6 mois, il demande à sa famille un soutien pour ne pas mourir. Pour ses proches, c'est bien la prison qui l'aurait tué. Ses codétenus n'ont pas cessé d'alerter les gardiens de la dégradation de son état de santé, en vain. Ces derniers l'ont laissé agoniser toute la nuit, n'intervenant qu'au matin à l'heure de son dernier souffle. Officiellement, Shadi Habash est mort d'empoisonnement. Il aurait confondu une bouteille de désinfectant, en ces temps de coronavirus, avec une bouteille d'eau. Dans la cellule d'isolement dans laquelle il était enfermé, il était le 3e à mourir, alors qu'il aurait dû être libéré depuis 2 mois, puisque la détention provisoire s'applique sur 24 mois maximum. Au-delà de cette mort sordide, ce sont des centaines de prisonniers égyptiens qui ont vu leurs conditions de détention s'aggraver avec la pandémie. Paradoxalement, ils n'ont plus accès aux soins pour les maladies chroniques et encore moins ceux nécessaires suite aux violences des gardiens. Les visites ont été interdites, mais non remplacées par un autre moyen de communication et les prisonniers politiques ont interdiction de communiquer avec leur famille ou leur avocat. Non seulement les prisons égyptiennes n'ont pas été désemplies pour cause de pandémie, mais ce sont plus de 1600 détentions provisoires qui ont été reconduites automatiquement entre le 4 et le 6 mai, sans qu'aucun détenu ni avocat n'ait assisté aux audiences. C'est une situation assez semblable à ce qu'il se passait avant le Covid, mais elle souligne à quel point le pouvoir du général Sissi fait fi de tous les contextes pour exercer son oppression. Vous pouvez retrouver ces informations sur Mediapart, et on enchaîne avec le morceau Balaha, de Rami Essam, donc, dont Shadi Habash avait réalisé le clip.
من خدتك قلت تبيع الارض يا كوره شربوا بصوها البعض مخطفوا النيل وبنوا
Eh bien, ça fait du bien. Voilà, eh bien, on va aller faire un tour et on va continuer à prendre. On en avait parlé la semaine dernière, hein, le Radio d'ici, une émission, une radio, l'équivalent un peu de Radio Canu dans le Pila, une radio associative, pour dire ça. Eh bien, s'est fait attaquer, a vu son matos détruit par des petits nazillons du Pila. Voilà, bien sûr, on leur apporte tout notre soutien. Et voilà, mais il semblerait que ce ne soit pas des actes isolés. On va un peu plus en parler maintenant.
On a parlé la semaine dernière de l'attaque des locaux de Radio d'ici, une radio locale à Saint-Julien-Molin-Molette et à Annonay. Mais l'attaque, ça a été à Saint-Julien-Molin-Molette. Alors, c'est assez facile de rentrer dans la maison où sont les locaux de la radio, et des fachos ne s'en sont pas privés. Ils ont pété le matériel à coups de marteau, ils ont vidé les extincteurs dessus après, et ils ont laissé des graffitis dans le couloir, une croix gammée, et les chiffres 14 et 88. Alors, grâce à un article d'un blog stéphanois que je connaissais pas, qui semble s'occuper pas mal d'infos locales globalement, j'ai fini par avoir l'interprétation précise de cette histoire de 14. Le nombre 14, nous dit le blog, fait référence aux 14 mots d'une phrase devenue un slogan du courant suprémaciste américain qui défend donc la supériorité de la race blanche. La phrase c'est « We must secure the existence of our people and the future for white children ». Ouais, vous aurez reconnu malgré mon accent, mais je vais faire la traduction. Nous devons préserver l'existence de notre peuple et l'avenir des enfants blancs. Voilà, ça c'était pour 14. Le nombre 88, plus de gens savent ça. C'est pour la huitième lettre de l'alphabet, le H, donc 88 HH, HH comme Heil Hitler. Le genre de code qui peut bien faire triper quand on a 12 ans. Je parle pas du contenu nazi, hein, je parle juste de l'idée de coder un message pour avoir l'impression de lui donner de la valeur. C'est quand même vraiment un truc d'ado, quoi. Alors revenons à nos moutons, et plus précisément à cet article sur ce blog qui s'appelle donc Saint-Étienne 2020. L'auteur du blog a fait un recensement des actes de saccage signés par l'extrême droite dans la Loire, et tout mis bout à bout, ça donne quand même une sorte de tableau d'ensemble, un tableau un peu paradoxal, vous allez voir. Cinq jours avant le saccage de Radio DC, le 5 mai, c'était une dizaine d'inscriptions précisant l'origine d'habitants de Saint-Étienne que ces derniers, ces habitants, ont découvert sur la porte de leur domicile ou de leur magasin, dans le quartier Jacquard. Et aussi sur la vitrine du restaurant, le comptoir de Marrakech, c'est rue Paulbert à Saint-Étienne, et donc c'était écrit la plupart du temps arabe. Juste voilà, comme ça, sur la vitrine du restaurant, c'était écrit arabe. Voilà, si on remonte encore un tout petit peu dans le temps, ça c'est aussi à Saint-Étienne, le 15 avril dans le même quartier, l'association culturelle turque de Saint-Étienne, ACTS, a été ornée du tag Dai Arab C19. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est mort aux Arabes, Covid-19. Alors là, quand même, il y a deux choses à observer. D'une part, sur l'association culturelle turque, bah, les Turcs sont pas des Arabes. Ils parlent pas du tout arabe, ils écrivent pas avec l'alphabet arabe. Il n'y a aucune raison de les considérer comme des Arabes, plus que par exemple comme des Européens. Alors c'est vrai que la religion majoritaire en Turquie, c'est l'islam, et qu'ils ont une petite tendance à être bronzés. Mais c'est bien tout ce qu'il y a de commun entre des Turcs et des Arabes, quoi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les associations culturelles turques à l'étranger sont souvent, et alors particulièrement à Saint-Étienne en plus, des émanations de l'extrême droite turque. Alors, on imagine que la plupart des fachos très politiques le savent en réalité parce qu'ils ont des liens. Et que donc, cette association serait pas exactement pour eux une cible privilégiée. Bon, on remonte encore un petit peu dans le temps. Le 24 février, c'est à Pélussin, donc un petit bled du massif du Pilat, à une quinzaine de bornes de Saint-Julien-Molin-Molette. Donc la salle des fêtes de Pélussin a eu des croix gammées sur sa façade. La veille, les habitants avaient découvert des inscriptions racistes sur la façade du Carrefour Market. Pas de bounoule à Pélussin, marre des bicots. Vous voyez le niveau. À Rouen, il y a aussi plein de petits signes comme ça, d'une sorte de présence raciste, peut-être en partie nazie, ou on ne sait pas exactement, mais... alors le 5 novembre par exemple, pendant un match de basket qui opposait la ville de Rouen à la ville de Boulazac, figurez-vous, en Dordogne, un spectateur âgé d'une soixantaine d'années a remarqué que l'arbitre était d'origine maghrébine, et là, hop, l'arbitre a eu droit à des insultes racistes. Bon, le retraité passera en procès théoriquement le 16 juin. Mais quelques temps avant, en octobre, toujours à Rouen, bah, des croix gammées, des étoiles de David ont été découvertes sur les murs d'une usine désaffectée. Et c'est un truc qui s'était déjà passé à Rouen dans le passé, ce truc de mettre des croix gammées et des étoiles de David. Le 18 mars, la tribune d'un stade de Rouen a été recouverte de croix gammées et de l'inscription « mort aux juifs ». Et puis, toujours en mars, c'était la même chose sur un club de canoë-kayak, toujours à Rouen, avec une dizaine de croix gammées, et aussi l'inscription « mort aux juifs » et une autre inscription contre une conseillère régionale, adjointe au maire de Rouen, et par ailleurs Les Républicains, enfin issue du parti Les Républicains, mais elle s'appelle Sophie Rotkopf, et donc c'était écrit « mort à la juive Sophie Rotkopf ». Et puis le maire de Rouen, lui aussi des Républicains, visé par un tag. Alors voilà, Yves Nicolas, mort à ton père. À côté duquel, il y en avait un autre qui disait mort aux Juifs. Encadré de deux croix gammées. Le 16 mai, une palissade à côté d'un axe routier, blabla, pareil, des croix gammées, et plein de croix gammées, et puis mort aux Juifs. Le 31 août, dans une commune à 20 bornes au sud-est de Rouen, la commune de Fourneau, et ben là aussi croix gammée, croix celtique et un sigle antifasciste barré. Alors il y a aussi, dans la Loire comme ailleurs, et même peut-être plus que dans beaucoup d'autres endroits, des fachos organisés. La Loire, c'est pas loin de Lyon. On sait que Lyon est une sorte de gros point de concentration des fafs en France. Les identitaires par-ci, les royalistes par-là, le bastion social, blabla, tout ça. Mais là, on dirait qu'il y a quand même autre chose qui se passe. C'est-à-dire que dessiner non pas une croix gammée, mais des dizaines de croix gammées sur un mur, ben, on pourrait avoir l'impression que c'est autre chose qu'un message politique pur jus. Écrire 1488, c'est aussi une manière de prendre de la place, une manière de se montrer, une manière de faire le cake, mais c'est pas précisément un truc qui est comme poursuivre une stratégie politique, quoi. La plupart des graffitis que j'ai cités pour l'instant, là, ils sont bourrés, mais alors bourrés de fautes d'orthographe. C'est quand même... à chaque fois qu'il y a trois mots, il y a une faute, quoi. je veux dire, le fait d'oublier un pluriel, de je sais pas quoi, mais c'est un point où c'est pas anecdotique, c'est pas anodin. Ça veut vraiment dire quelque chose. Alors voilà, dans les campagnes du Pilat, il y a des jeunes, il y a des ados, il y a des gamins qui fricotent avec tout ça. Ils aiment pas les Arabes, ils aiment pas les PD, mais c'est sûr qu'ils savent quand même vraiment pas grand-chose de ce qui se passe en dehors de leur village. C'est des gamins pour lesquels Saint-Étienne, c'est déjà une grande ville, un petit peu effrayante. Alors une petite partie, mais vraiment une petite partie de leurs potes ou de leur fréquentation, de gens qui peuvent croiser dans le village, sont en lien avec des orgas politiques, les identitaires en particulier, mais éventuellement d'autres. Mais la plupart de ces gamins, on dirait, ont juste besoin de quelques conneries à faire, peut-être en partie parce que c'est l'orage. Alors, quand on a entendu parler du saccage de radio d'ici, plein de gens du coin ont été mal. Bon, d'une part parce que c'est vraiment flippant en soi, ça y a aucun doute. Mais aussi, moi j'ai entendu plusieurs fois des gens dire que nazi, c'est quand même une autre dimension que juste l'extrême droite qu'on connaît, genre Front National. Alors, en fait, dans le contexte, je suis pas certain que ça soit complètement exact. Les croix gammées, pour les gens qui les ont fait, bah, c'est un truc pratique à dessiner, bon, avec malgré tout le petit challenge de pas les faire à l'envers, quand même. C'est aussi très très provoque, bien sûr. Écrire 1488, bah, c'est se sentir exister, c'est avoir une chance qu'on parle de toi dans le journal, la petite bouffée d'excitation qui va avec. Mais les connards qui ont fait ça, et qui, alors sans aucun doute, hein, tomberaient volontiers à 5 sur un gamin gitan si, à la première occasion, mais ces gens-là, à mon avis, n'ont pas la moindre idée des subtilités qui différencient un royaliste d'un identitaire ou un national-socialiste d'un candidat du Rassemblement National. Et alors, voilà, et bah, est-ce que c'est rassurant de voir les choses comme ça? Eh bah, ben, c'est pas certain. Parce que c'est quand même un truc dans lequel ils se mettent, et après savoir où ça va les emmener, c'est une question qui n'est pas entièrement résolue, et on peut toujours se dire que c'est pas la peine, c'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour passer à des actions beaucoup plus graves que quelques graphes.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, on va faire un tour du côté de l'Espagne. Le quotidien El País accuse le gouvernement espagnol d'avoir expulsé le 3 janvier des exilés vers le Maroc. Alors, il s'agit de 42 personnes qui débarquent donc ce 3 janvier sur l'île des Charafinas, une île espagnole au nord du Maroc qui remonte donc à l'époque des colonies. Quelques heures plus tard, ils sont remis à des gardes-côtes marocains et donc expulsés au Maroc. Normalement, on le précise, le droit européen fait que si une personne pose un pied en Europe, à la seconde où il dépose ce pied, il peut et il a le droit de déposer une demande d'asile. Et il ne s'agit pas juste d'un droit et que la personne doit connaître elle-même et l'exprimer dans la langue dans laquelle le pays dans laquelle elle met le pied, mais c'est un droit qui est fait de telle sorte que les pays européens sont censés tout mettre en place pour qu'il soit appliqué. En l'occurrence, ces îles espagnoles situées donc tout près du Maroc, donc dans un parcours de migration, eh ben il est donc logique pour des personnes qui voudraient partir du Maroc pour tout un tas de raisons, ou du continent africain pour tout un tas de raisons, eh ben c'est donc un des endroits les plus proches pour pouvoir accéder à l'Europe. Eh ben voilà, ces personnes-là, elles peuvent donc aller là-bas et ensuite demander l'asile. Sauf que, eh ben le gouvernement espagnol, il semble qu'il fasse un peu fi de ça régulièrement. En tout cas, là, cette fois-ci, il a été pointé du doigt. Mais on imagine quand même assez facilement que c'est pas la première fois et que là, cette fois-ci, juste, il s'est fait attraper, quoi. Là, en gros, les personnes, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'elles auraient dû être accueillies dans l'enclave de Melilla. Donc, c'est le port le plus proche, hein, espagnol. Melilla, c'est une enclave espagnole qui se situe dans le territoire marocain. Qui est également sur la côte et voilà, et donc à cet endroit-là il aurait proposé si les personnes souhaitaient une demande d'asile, et il y avait quand même tout un tas de chances pour que les personnes bien sûr disent oui. Donc voilà, du côté des autorités espagnoles, Amélia, eh ben, ils parlent, eux, d'un sauvetage et non d'une expulsion effectuée par les autorités marocaines. En gros, bon, nous, on n'y est pour rien. Bon, ben voilà. En gros, le quotidien El País a recueilli une source proche de l'armée, enfin, une source interne à l'armée même, qui affirme au quotidien qu'il y a bien eu un échange entre des Espagnols et des militaires marocains. Voilà. Et le quotidien dit également que eh ben, c'est pas la première fois que ça s'est passé, qui a déjà eu ça par le passé.
Canu Info.
Et parce que c'est le contexte actuel, hein, on va parler de masques, et c'est pas seulement parce que j'en ai un autour de la bouche en train de vous parler, qui me donne des respirations bizarres que vous entendez peut-être. Non, on va parler masques, respirateurs et compagnie.
Lundi soir sur BFM TV, Emmanuel Macron a parlé de l'approvisionnement en masques en France pour cette histoire d'épidémie de Covid-19. Il a reconnu des tensions, il a reconnu des manques, mais il a bien affirmé qu'il n'y avait pas de rupture. Alors, est-ce qu'il parle de là tout de suite, ou effectivement, bon an, mal an, une dizaine de jours après le déconfinement, on peut considérer que tout le monde a plus ou moins accès à un masque, et même, on dirait qu'il y a pas mal de gens qui ont réussi à avoir un masque, deux masques gratuits, distribués par les régions, les municipalités, où les gens se sont démerdés pour en fabriquer, ou je sais pas quoi. Non, Emmanuel Macron, quand il disait qu'il n'y avait pas eu de rupture, il voulait bien dire « depuis le début de la crise du Covid-19 ». Et alors là, c'est tellement incroyable comme mensonge, mais c'est tellement éhonté. Là, on est vraiment dans un niveau de mensonge qui vaut le nuage de Tchernobyl qui avait contourné les frontières en 86. Hein. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu de rupture? Eh bien, tout simplement parce que si on évalue comme le gouvernement a toujours évalué, c'est-à-dire non pas en fonction des besoins réels de gens pour ne pas être contaminés, mais en fonction des instructions gouvernementales, eh bien, elles ont toujours suivi l'approvisionnement, ou en tout cas le non-approvisionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où le gouvernement disait que porter des masques, c'était sans doute contre-productif. Il y a eu ces moments où certains fonctionnaires ont été sanctionnés parce qu'ils portaient des masques. Il y a eu tout ce moment où on a dit les masques, c'est pas très nécessaire, ou que dans certaines circonstances, ou presque pas. Oui, s'il y a deux ou trois personnes dans un hôpital qui en ont, c'est pas mal, mais quand même, s'ils en ont pas, c'est plutôt mieux. Ça, c'est tant qu'il n'y avait pas de masque. Alors effectivement, vu de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de rupture. N'empêche qu'il y a des tonnes de gens qui ont été contaminés à plein d'endroits où ils ont continué à travailler, et en particulier dans les hôpitaux, parce que peut-être qu'il n'y avait pas de rupture, mais ce qu'il n'y avait pas du tout non plus, c'était les masques. Et dans la foulée, un article de Nantes Révolté nous rappelle ce qu'ils appellent des scandales d'État quasiment tous les jours. En réalité, bon, ils en trouvent trois, mais qui sont quand même qui valent aussi le coup. Et c'est toujours des histoires comme ça de gestion ultra pourrie. C'est l'histoire des respirateurs fabriqués à prix d'or, mais qui ont été inutilisables. C'est-à-dire que le gouvernement a commandé à un moment en catastrophe 10 000 respirateurs pour garnir les hôpitaux, et là ils ont fini par être livrés, bon, un certain temps après, il fallait quand même les construire, mais là on s'est rendu compte qu'il y en a 8500 qui sont des respirateurs qui n'étaient pas du tout utilisables, en fait, qui étaient des respirateurs qui devaient servir, qui sont conçus pour servir dans les ambulances pour de manière très très courte, mais on peut pas brancher quelqu'un longtemps dessus parce que la personne elle peut pas supporter. Donc ça, il y en avait 8500 sur les 10 000 qui ont été commandés et livrés. Cet article de Nantes Révolté nous parle encore de cette histoire où des centaines de millions de masques ont été brûlés par le gouvernement en pleine pandémie. Et puis, cette autre histoire plus récente, qui date, attendez, je suis en train de faire défiler sous mes yeux, mais non, j'ai pas la date, mais qui date d'il y a moins de deux semaines en tout cas. Le gouvernement a commandé 1 million d'écouvillons, c'est-à-dire les machins qu'on vous rentre dans le nez pour aller vérifier très très profond s'il y a des virus là, des sortes de petits cotons-tiges. 1 million a été commandé en Chine, mais en fait malheureusement l'entreprise n'a pas livré des écouvillons pour nez, mais des écouvillons pour bouche. Alors on peut aussi aller chercher dans la bouche pour voir s'il y a des virus, juste on a, il me semble, 30% de chance en plus de se tromper, c'est-à-dire que globalement ça sert quand même pas à grand-chose. Voilà, l'article de Nantes Révoltée suggère par la suite de juger Macron et tout son gouvernement selon leurs propres critères, c'est-à-dire le critère de c'est-à-dire en tant que manager de la start-up nation, et même dans ce cas-là, se procurer des masques, négocier des achats. Ils en sont complètement incapables de le faire sérieusement. Dans cette perspective-là, l'article finit par suggérer de les licencier.
Et voilà, eh bien, ce Canu Info touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. C'était super de vous retrouver pour moi en direct et pour mes camarades de pouvoir être diffusés en direct. Voilà, c'était super cool. Je pouvais pas finir ce Canu Info et retrouver ces studios, bien sûr, sans remercier infiniment toutes les équipes de la radio qui se sont mobilisées donc sans relâche et avec une immense réactivité pour nous permettre de diffuser de chez elles et de chez eux nos émissions enregistrées. Voilà, c'était complètement fou de faire ça. On rappelle que Radio Canu, c'est une radio associative qui n'a aucun et aucune salarié et qui donc juste se base sur une dynamique de fou de tout un tas de gens. Voilà, un grand merci à elle et eux pour tout ce qu'ils ont fait d'avoir permis que Radio Canu continue de vous parler pendant ce confinement. J'espère que il y a eu des petites erreurs techniques, c'est parce que c'est le moment de se retrouver. Il y a quelques petits ajustements dans le studio à faire avec cette reprise. Eh bien, un grand merci de nous avoir écoutés et on vous retrouve la semaine prochaine dans les mêmes conditions. Allez, ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.